Lizzie présente La forêt des disparus de Olivier Ball. Lu par Jensenberg
et Pascal Chemin.
À mes amis, sœurs et frères de cœur, ma communauté. Prologue. Paul. 11 mai 2011. Ce soir, le monde a sombré dans le chaos. Des dizaines de personnes m'encerclent. Certaines portent des cagoules, d'autres des masques avec des gueules d'animaux. Il y en a partout. Redwoods a changé de visage. La petite bourgade, habituellement si paisible, n'existe plus. Elle a revêtu une parure de ténèbres. C'est le carnaval des ombres, la nuit des crânes. Comme si tout ce qui avait été retenu durant toutes ces années finissait enfin par jaillir. En progressant vers le centre, le long de la promenade d'Elders Beach Drive, je croise un long défilé de voitures. Ça klaxonne dans tous les sens. Des jeunes grimpent sur les capots, se suspendent aux portières. D'autres, torse nus, se sont peints au charbon d'étranges symboles sur le corps. Tous hurlent, imitant des cris d'animaux, bouteilles d'alcool à la main. Ici et là, quelques types plus âgés brandissent leurs fusils de chasse et tirent en l'air, parfois même tout en conduisant. Les rares policiers présents, dépassés, n'osent pas intervenir. Collés les uns aux autres, ils restent dans un coin, un peu en retrait. Ils le sentent, il y a eu trop d'alcool versé. Ça risquerait de déraper. À l'inverse, d'autres ne se privent pas d'attiser le feu et de se ruer aux premières loges. Les équipes de télévision slalomment ainsi entre les passants, courent d'un groupe à l'autre, brandissant leurs micros. Les journalistes, accompagnés de leurs caméramans, tentent d'immortaliser la frénésie. Ils se préparent pour le direct. Juste le temps de passer la langue sur leurs dents éclatantes, de lisser leurs chevelures gominées, et ça tourne. Je sais ce qu'ils doivent avoir en tête. J'étais comme eux, dans une autre vie. Un village en quête de vengeance, un meurtrier en cavale. J'imagine déjà les gros titres. Tout est réuni pour qu'ils fassent le reportage de leur carrière. Ils attendent, espèrent secrètement que ça va dégénérer. Ça se hâte, ça passe le micro d'un jeune à l'autre pour leur poser la même question. Vous comptez aller chercher le tueur cette nuit ? Je saisis au vol quelques réponses avinées. On va l'avoir, ce salopard. Il va payer. Il passera pas la soirée. On est chez nous ici. Il connaît pas la forêt comme nous autres. Tout autour de moi, dans la foule compacte, il n'y a que ces masques effrayants. Des cagoules rapiécées, mais aussi des déguisements bricolés à partir de branches, de cordages, de feuillages. Enfin, il y a ceux qui ont acheté à l'entrée de la ville, sur des étals de fortune installés à la va-vite, des crânes d'animaux pour dissimuler leur visage. Je crois reconnaître ici une tête de cerf, plus loin d'ours. Moi-même, je n'ai eu d'autre choix que de trouver de quoi me fondre dans la masse. Plutôt, après être parvenu à m'extirper de cette maudite forêt, en arrivant aux premières habitations de Redwoods, je suis tombé sur ce garçon qui jouait devant chez lui avec un crâne de coyote que lui avait sans doute offert son père. Lorsque je le lui ai pris, il s'est mis à hurler. Mais j'étais déjà loin. Je l'ai passé sur mon visage, j'ai serré le cordage autour de ma tête. Manque de chance. Le crâne est trop petit, ne couvre pas totalement ma face, mais ça fait l'affaire. Je sais ce que je risque à être là, en cet instant. J'aurais dû m'enfuir, bien entendu, quand j'en avais l'occasion. Je tiens plus du dernier des crétins que du bon samaritain, mais on ne se refait pas. Et elle a besoin de moi. Je passe devant un réverbère sur lequel a été placardée une affiche, comme il y en a tant d'autres aux quatre coins de la ville. Sur celle-ci, ma photo s'étale, avec en dessous ces quelques mots. Recherché, Paul Green. Forte récompense. Je suis leur trophée, celui qu'ils espèrent enfin trouver au terme de cette nuit d'hystérie. Un dernier sacrifié. Le sang aura coulé, la forêt sera rassasiée. Tout le monde pourra alors reprendre sa vie bien tranquille. Ça grouille, ça boit et ça s'esclaffe. Ça se prépare, ça se met en jambes. Car la fête n'est qu'un avant-goût. Tous ces types n'attendent qu'une chose. Qu'enfin commence la traque. Ils comptent les minutes avant de rouler à tombeau ouvert jusqu'à la forêt, armer leurs fusils, lâcher les chiens et partir à ma recherche. Car ce soir, le gibier, c'est moi.
Première partie. Dans la forêt sans fin. Si tu quittes Redwoods, tu erreras perdu, pour toujours, disparu, dans la forêt sans fin. Comptine de Redwoods, premier couplet, vers 1940. Chapitre 1. Emily Bennett, 14 avril 2011. Où suis-je? Pourquoi n'y vois-je rien? C'est le noir le plus total. Je cligne des yeux. Ai-je eu un accident? Comment me suis-je retrouvée ici? J'ai si froid. Je me touche le corps. C'est bien ce que je pensais. Je suis totalement nue. Reste calme, Emily. Il doit y avoir une explication. Je laisse courir ma main droite autour de moi. Le sol rocheux est glacé. Il y a une odeur d'humidité, de terre, et une autre, un peu plus acide, comme du soufre. Suis-je dans une cave? Une grotte? Une mine, peut-être. Mais laquelle? Des milliers de souterrains ont été creusés à travers l'Oregon au cours de la ruée vers l'or, à partir de 1850. La plupart ont été condamnés. Je le sais, car en commençant ma randonnée il y a 3 jours, j'ai été surprise de voir autant de panneaux de mise en garde en bordure de forêt. Ne tentez jamais d'entrer dans une mine abandonnée, danger de mort. Je me redresse péniblement. Alors que mon corps est encore engourdi, je m'aperçois que quelque chose est attaché à ma main gauche. Je vérifie à tâtons. On a accroché un objet à ma main, serré avec du ruban adhésif. C'est du plastique de forme rectangulaire. Là, au bout de mes doigts, il y a un bouton. À cet instant, un crissement aigu retentit. Il vient du fond de l'endroit où je me trouve. Mais putain, je n'y vois rien. Et ce silence? Mon cœur martèle ma poitrine. Je tente de retrouver ma respiration. Comment suis-je arrivée là? Mes derniers souvenirs sont confus. Remettre tout ça dans l'ordre. J'ai quitté le refuge de Douglas Tree assez tôt ce matin. La météo annonçait que le temps allait s'arranger aujourd'hui. Après 2 jours de marche sous la pluie, c'était une bonne nouvelle. Je comptais en profiter pour avaler un maximum de kilomètres. J'avais passé la nuit seule. Normal en cette saison, les randonneurs ne sont pas légion. La veille, tandis que le poêle rouillé du refuge crépitait, j'avais hésité à appeler ma mère de mon téléphone portable. Pour une fois que j'avais un peu de réseau au cœur de cette forêt. Mais je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce que ça aurait changé? Elle s'en foutait, elle comme tous les autres, de ce que je faisais. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle je m'étais décidée à mettre les voiles un an plus tôt. D'un état à l'autre, d'un petit boulot à l'autre. 2 semaines ici, 1 mois là, toujours plus loin, et mes randonnées pour faire le vide. À 7 heures du matin, j'ai donc quitté le refuge, puis emprunté le sentier de Miner's Trail, qui remonte plein nord. Le chemin grimpait doucement au milieu de jeunes séquoias. Une brume légère transformait les premiers rayons du soleil en lames d'or. Mes narines étaient chargées de l'odeur de la forêt qui s'éveillait. Je me sentais bien, en forme. Ma foulée était rythmée. C'est là que j'ai vu le type. En contrebas, à 20 mètres, il était accoudé à une passerelle qui franchissait un ruisseau. Il m'a expliqué qu'il faisait sa balade matinale, qu'il était du coin. Il était à la fois avenant et un peu bizarre. J'ai suivi son conseil, pris l'embranchement qu'il m'avait indiqué sur la carte. Après tout, si j'avais décidé de traverser la forêt des disparus, c'était bien pour m'offrir quelques frissons.